Puisqu'aujourd'hui, je prends enfin le temps de faire mon site, de remplir cette structure que Guy Braun a préparée pour moi et qu'il me presse depuis au moins, enfin plus d'un an à composer. Je voudrais ajouter à la lecture mes lectures, c'est-à-dire ma voix, puisque le poème, à mon avis, est avant tout l'expression, la manifestation d'une voix, c'est-à-dire cette puissance d'être qui tient par-dessus tout à s'identifier à la vie. Je vous lirai quelques poèmes des recueils les plus récents, mais je voudrais commencer par un tout petit passage d'un livre qui est paru en 2010 aux éditions Anagramme et qui s'appelle La Dame à la Licorne, qui est composé de deux novellas, c'est-à-dire la première La Dame à la Licorne et ensuite Du coin de l'œil où perlent les larmes. Et là, en songeant au grec ancien, réfléchissant à cette langue qui a perduré par-delà les siècles, je me faisais quelques réflexions sur le langage. Donc, Du coin de l'œil où perlent les larmes, Anagramme 2010. C'est la magie de cette langue, où vibrent les sons i et de doux suintements mouillés, que d'avoir traversé le temps, indemne et fidèle aux origines. Une langue nénuphar encore reliée au limon ancestral par une longue racine qui se perd dans la nuit du devenir. Comme si l'humain n'avait pas sectionné avec l'Éden premier l'enchantement des commencements, l'infini du possible, le cordon que l'on dit ombilical. Comme si nous étions encore, pour ainsi dire, non dédoublés, mais pareils à nous-mêmes, cultivant bravement les terres du paradis. Ceux qui rejettent l'étymologie sont des imbéciles qui n'ont aucun sens des rapports intimes que la langue entretient avec le devenir. La descente à la source nue des mots procure un plaisir spirituel qui nous inscrit au cœur de la durée en communion d'affection avec toutes les lèvres qui, au fil des siècles, les ont prononcées. La jeunesse de l'être, dans et par le langage, lui assure une revanche, pacifique et recueillie, sur les triomphes de l'histoire destructrice, l'histoire et sa grande hache thanatophore. Songez, nos corps échouent dans les cimetières, puis mettent des siècles et des siècles à s'en absenter tout à fait. Mais nos voix, ne serait-ce que dans les dictionnaires, poursuivent à jamais leur conciliabule. Collez-y vos oreilles et vous entendrez. La langue est notre âme, non point signe, mais être. Un passage maintenant du Puits du Ciel qui a paru aux éditions Caractère en 2008, en avril 2008. C'est le début de ce long poème. Et jusqu'au ciel, ils creusèrent. On apercevait au bout de l'expérience un petit trou bleu, l'origine sur elle-même revivifiée, ayant puisé aux sources du savoir, ce que je saurais dire si je prends le temps de m'y absorber. Alors viendront toutes les associations, tous les transports, métaphores, les recoupements, ce qui effleure, métonymie, mais ne réduit pas, le jeu de l'esprit, quand il se plaît à étancher sa soif, sans cesse il la recrée. Et jusqu'au ciel, ils creusèrent. Ne s'arrêtèrent pas en si bon chemin, en firent l'œuvre quotidienne, le souci du vivant. Qui s'affranchit de son être intérieur devient un spectre. Mieux vaut creuser à nouveau, n'avoir de cesse, au puits s'abreuver, n'avoir de cesse, et s'élancer pour témoigner du vivant, de sa souffrance, de sa ferveur. N'avoir de cesse, ce travail commence à Crémone, en Italie. Ensuite vient un autre poème, toujours écrit majoritairement en Italie, « Masque de nuit », qui est apparu aux éditions Caractère en 2009 avec une préface de Claude Vigier. Claude Vigier qui m'avait fait la grande faveur de lire ce poème et d'écrire dessus. La pierre ici parle. Dans la basilique San Pietro, reposent sur leur couche grise les Étrusques, questionnant l'instant du point de vue de l'éternité. D'eux à nous, le rapport est inversé, nous qui saturons l'instant de notre innocence. Ils sont passés de l'autre côté de notre ingénuité, de cette candeur primordiale qui nous fait exister. Dans l'un des bas-côtés de la vaste nef, la gardienne, derrière sa table couverte de guides en quelques langues européennes, éternue, rompant de la sorte le silence premier, ce don votif à la grandeur du serpent de nuit, qui sans se lasser glisse pour nous sous les siècles. Ceci est un lieu saint, c'est-à-dire un point dans l'immensité où le temps prend le temps de s'observer, en suspens, comme si quelqu'un lui chantait à l'oreille pour, en toute innocence, le charmer. C'est alors qu'il se dresse, à la pointe de la note tenue, dans l'ivresse de la mesure et l'infinie bonté de la mélodie, magnifique, fier, affectueux, reconnaissant, bien disposé en sa plénitude messianique, et diablement retors, sifflant, soufflant, crachant, grimaçant les flammes de vie, la brûlure et le don. Un peu plus loin dans le même poème, Masque de nuit. Sur le canal dansent les hirondelles, effleurant l'eau lestement, passant et repassant sous le petit pont. Elles jouent, dis-tu. Elles ont aussi leur nid sous la travée, presque à fleur d'eau. Nous nous arrêtons un peu plus loin pour pique-niquer sous un tremble. Autour de nous, dans l'air traversé d'un vent léger, volettent trois papillons bleus. Comacchio. Un chat miaule sur un balcon, en plein soleil, au premier étage d'un petit immeuble. Il a soif, il a chaud. La voisine d'en face l'entend mais n'agit pas. Et nous, en notre impuissance, nous nous sentons indignes. Il s'épuise, ils vont le retrouver mort en rentrant, remarques-tu, en absorbant en toi toute cette souffrance qui te torture. Voici comme l'injuste subitement redresse la tête, siffle et souffle, crachant la douleur jusque dans les plus infimes détails de l'existence. Ne me parle plus de ce chat, m'as-tu dit plus tard. Cela me fait trop de mal. Ferrare. Nonchalante promenade, tandis que le soleil lèche encore les façades d'un rayon doré. La ville est sillonnée de bicyclettes. Les gens vont et viennent. Petit marché sur la Piazza del Municipio, bordé du grand escalier à arcades. La place est relativement petite, comme un petit cabinet retiré, accessible sous le porche en venant de la vaste esplanade du Duomo. La vie, ici, ne se lasse pas. En 2010, apparu chez Lucie Édition à Nîmes, dans la collection de Franck Ducrot, un recueil que j'ai intitulé « Enfant nu, comme l'instant, aux ruines de la durée ». Je lirai tout à l'heure le poème qui a donné son titre au recueil, mais commençons par celui-ci. Pour les noces sans cesse de l'évanescence. Pluie d'or, douleurs vermeilles et pleurs écarlates. Le vent s'empare de chaque feuille et s'amuse avec elle. Grand jongleur, le vent qui les soulève, les trousse et les couche sur cette terre de promesses. Elles tournent sur elles-mêmes comme des araignées, se condamnant en leur longue chute sans retour, toutes à leurs illusions dorées qui papillotent joyeuses, avant que de noircir au sol en silence. Elles y deviennent l'ombre d'elles-mêmes, mouillées et muettes. Pluie d'or, douleurs vermeilles et pleurs écarlates, elles clignent, scintillent, pétillent toutes les feuilles en leur ultime élan qui est leur négation. Ce que nous ne saurions croire, tant vibre la merveille en son ardeur. Puis d'or, c'est le devenir qui nous séduit ainsi, le triple démon des métamorphoses, pour les noces sans cesse de l'évanescence sans fin et de la plénitude sans fond. Ce mystérieux élan vers l'au-delà, avant que de noircir au sol en silence. Puis d'or, douleur de la merveille et pleurs écarlates, le vent s'empare de nos silhouettes et les brouille au lointain. Grand funambule, le vent qui les mêle, en nous persuadant, transi que nous sommes, de la beauté de l'estompe. Puis d'or, nous l'aimons, et la merveille de sa douleur, de grâce. Enfant nu comme l'instant aux ruines de la durée. Sur le mur de la maison détruite demeure le papier peint, comme demeure le poème, une fois le cœur démoli. Vert, violet, de gros dessins jolis, ce papier fossile a la fraîcheur des sentiments neufs, comme le poème dévoile son cœur d'enfant à l'épreuve du temps. Sur le mur de la demeure en ruine, le papier peint s'expose à la façon du nourrisson orphelin d'intention, Œdipe, Moïse, Dionysos ou Persée, Gilgamesh. Tout ceci qui, humblement parmi les roseaux, au creux des flots ou bien à flanc de coteaux, sur la roche escarpée se pénètre déjà, tout petit, de l'âpreté du destin. L'abandon et source de sagesse. L'enfant mis à nu sur la paroi du cœur démoli possède l'intuition d'une science qui nous dépasse. Notre au-delà, la pluie qui bat, l'amarrage de l'instant clapotant sur la revêche éternité sans joie, l'immobile écran de nos tourments, sans nous, le vide de notre désarroi. Mais nous nous tenons pour tous parmi les roseaux, au creux des flots ou bien à flanc de coteaux, enfant nu, comme l'instant, ruine de la durée, ressaisi, exposé, ce papier peint, le poème, naguère, une chambre d'enfant, l'abandon et source d'attention. Exposé, nu, nous voici parfaitement aux aguets, parfaitement disposé à résister au destin en son âpreté. Un autre poème du même recueil. Pour le cri qu'est l'arbre vert, si vert sur le gris de l'hiver. Quel est le sens de ce miracle de l'esprit qui se plaît à animer les mots dormant dans l'attente d'une aube d'hiver, transie de givre et de gelée blanche. Entre la simple sensation d'être, le fourmillement d'impressions à peine distinctes, mais chacune éprouvée dans l'autre dimension du temps, intime, fluide, échappant à toute maîtrise, et l'intuition naissante du souffle qui s'articule entre les lèvres, perpétuelle naissance d'une science en mouvement dans l'autre dimension du temps, moins infime, plus perceptible, très liée toutefois, suffisamment fluide encore pour conserver toute la souplesse de ses origines natives, entre ces deux cadences, ces deux mesures, palpite une membrane ténue, sensitive muqueuse, le toucher lui-même, qui stimule amoureusement la langue, effleurement de la vision intérieure. Caméléon, disait Keats dans la nuit aveugle du rossignol infiniment mélodieux. Toucher de celui qui naît de la vie s'animant en lui, sans pression de la volonté, sans viol, au diurne de la conscience, de l'intimité nocturne, mais en pur plaisir éthique de résister à l'objet, car se fondent ici en poésie, en toute bonté, sans hauteur ni cruauté, sans rigueur extrême, une morale de l'existence. J'aperçois en passant, par la vitre du train, une maison détruite, au toit ravagé par le feu, poutres à tout vent, maison de Cadet-Roussel, dans laquelle pousse un arbre vert. Les signes ne s'animent que de la force intérieure que leur donne le mouvement des lèvres au toucher nocturne qui est l'être en son essence. Cette fine membrane sensitive qui, de vibrer, fait entendre le sens profond, le sens ténu de notre passage. Tout est sombre, ainsi que le naufrage, dans cette maison à gueule ouverte, pour le cri qu'est l'arbre vert, si vert sur le gris de l'hiver, rehaussé de celui-ci, anthracite, du feu mourant encore, du feu devenu cicatrice d'une vie fendue, un jour brisée, puis lentement oubliée, caduque, à part le vert fougueux de l'arbre résistant qui surgit du passé vaincu. Quel est le sens de ce miracle de l'esprit qui se plaît à animer les signes dormant dans l'attente d'un regard et, plus encore, d'une vibration à articuler dans l'indifférence d'une aube d'hiver, transie de givre et de gelée blanche. D'une vibration, une seule, reprise en résonance au passage de la fine muqueuse sensitive, un peu semblable à celle qui mène à l'orgasme, l'orgasme ténu, éphémère, mais d'une magnitude essentielle pour le sens profond de notre être en l'instant. Au rythme de deux mesures, l'une vibrant de l'autre et l'explorant en écho, selon la magie toujours nouvelle du répond et des correspondances. Un souffle en pensée passe les lèvres amoureusement entr'ouvertes et s'articule en cercle concentrique depuis le cœur de vie que manifeste pour l'oreille intérieure, l'oreille attentive et joyeuse, son sentiment et sa jouissance. L'esprit, le miracle, naît de ce souffle-là. Esprit, souffle et miracle du souffle. Un peu plus récent, très récent même, L'eau de prudence, toujours avec des illustrations de Guy Braun comme Masque de nuit et le puits du ciel. L'eau de prudence a paru plus récemment en 2011 chez Caractère. Michel-Ange à la chapelle Sixtine. À travailler tordu, j'ai attrapé un goitre, comme l'eau en procure au chat de Lombardie. Par-dessus l'épais grondement de la foule, murmurent les couleurs. Et c'est en silence qu'elles proclament l'âpreté de la destinée et l'aspiration au bien, en un luxe de teintes fraîches, d'ombre et de lumière, de diaprure, de drapé glorieux. La parole de prudence s'y exalte. Celle qui émane, même à travailler tordu, de la voix première dans l'instant des lèvres mobiles, sibylles et prophètes, celle de Cume, qui ne parvenait à mourir, celle de Delphes, jeune parente du Python, oxy par Apollon. Isaïe, Zacharie, Daniel, Amos, Jonas, Ézéchiel, ses lèvres prudentes de la splendeur et de l'effroi. Ce n'est pas le beau qui resplendit au-dessus de nos têtes, au-dessus de cette foule habitée et complexé par l'ordinaire et son soi-disant ennui. C'est un élan beaucoup plus puissant que le simple tour de force formel. La voûte énonciatrice, un surgissement magnifique de l'instant soudain capable, sous cette main habile, de nous chuchoter à l'oreille, dans le secret de chaque âme particulière, ce qui, pour la minute qui vient, va nous guider et nous guide encore. Le beau, comme tout concept, nous est étranger. C'est chair là-haut, celle du jugement dernier en particulier, derrière l'autel, ne sont pas belles. Ce n'est pas l'harmonie plastique d'un universel canon qui rend ces silhouettes saisissantes, mais le modelé de leur élan, la préoccupation dans leur regard, l'effroi, parfois. Voyez celui-ci, souvenez-vous, qui se cache un œil d'une main, l'autre s'exorbitant à peu près. L'idéal est bien pauvre, à côté de ces convulsions de notre profonde détresse, même si nous cherchons le bien. De connaître le mal, nous le cherchons avec d'autant plus d'inquiétude. Mais si vous regardez bien ces formes flottant sur la paroi bleue, vous verrez que le bien, le mal, se mêlent à l'intime d'une manière si énigmatique que l'artiste a ménagé une zone incertaine entre le repos des uns et la déchéance des autres. Peut-on d'ailleurs vraiment parler de repos, puisque ces êtres qui s'abritent dans la matrice du ciel, auprès du corps turbulent du Christ incarné, sont encore agités d'émoi et de crainte. Cette révélation-là, à la fin des temps, est celle concentrée de la puissance de synthèse d'un trou noir, de ce que peut l'instant dans l'extrême expression de la voix première. On dirait un fruit que l'on vient d'ouvrir, une figue juteuse, expressive, à vif, et qui, ainsi dépouillée de tout artifice, de toute extériorité, de tout masque, met à nu l'extrême douleur de naître, le cri de la rupture, l'égarement de la chair affolée, dans l'instant porté à son acmé, l'instant magnifié où chaque individualité, par l'effort d'une conscience et d'une main avisée, entend sa propre histoire, sa terreur et son élan. L'instant pourvu de lèvres dans le tourment de l'ordinaire, dont le drame est la doublure réflexive. Sur la scène de l'œuvre se convertit la peine et le cri d'ombre de la voix première s'inonde de lumière. Alors s'accomplit l'apocalypse de l'âme intime qui naît à nu, à l'authentique, par l'honnêteté du trait. Et j'ai le ventre, à force, collé au menton. En cette Italie cruelle des débuts du XVIe siècle, qui aurait pu s'en tenir à la simple beauté, à l'idéal? Quelle âme honnête de poète aurait-elle pu se contenter d'un concept? C'est la voix première qui affleure, à l'instant de haute détresse, de fière aspiration, sur cette paroi de ciel et de chair, pour ce jugement dernier, chaque véridique instant recommencé. Et plus récent encore, qui vient de paraître aux éditions Encre Vive en septembre 2011, un poème par lequel je conclurai cette lecture et qui est encore une réflexion sur la langue, le langage, la liberté qui nous est donnée de créer le possible et de se garder de l'angoisse qu'il peut faire naître aussi. Et la nuit attelée au jour, le silence à la langue. Comme il est rassérénant de pouvoir écrire, en créant ainsi sans doute, peut-être, une réciprocité qui puisse égratigner l'anonymat de l'existence. Notre vigueur provient du fin fond de nous-mêmes. Nous la puisons au cœur à partir de ce qui nous est donné. La vie mystérieuse à laquelle notre choix conduit à donner un nom. La genèse est genèse du langage. Il est important, décisif, de nommer sans cesse, de nommer à nouveau. En cet au-delà de notre ignorance créée, et à mourir, tel le coquelicot d'un été, par-delà notre effroi et notre abattement devant le dérisoire de la situation, nous ouvrons parfois la petite porte du divin. Ce qui nous rassemble par-delà les tourments, exiguïté, rivalité, argile de l'histoire et adhérence du cheminement quotidien. Il est vif de nommer à nouveau, comme faire peau neuve, muet, l'âme mise à nu par le don des lèvres, qui reconnaissent que la vie existe quand elle remue, murmure, désigne, comme au premier jour de la parole, quand fut la lumière de la conscience et de son existentiel dialectique de jour et de nuit, de dire et de silence. Et la nuit attelée au jour, le silence à la langue, guide la puissance de vaste envergure, qu'elle soit vigueur du sens au lieu de violence, la force vice à la racine du monde, se diffusant dans la menue, les mots, les déferlements. Il faut nommer à nouveau pour faire pièce à la violence qui louvoie, dans l'anonymat qu'elle impose à la langue. Car la voix dévoyée ne nomme pas sa propre fatalité. Facilité de ne plus saisir ce que sous l'abîme veut notre ignorance, quand nous oublions la vigueur du sens, trop étourdi pour édifier notre demeure dans le temps et nous creuser notre abri au sein de l'éternité par les mots, chairs de la voix sur le remuement des lèvres. Il est vif de nommer à nouveau, comme surgir sur scène en la Genèse, quand le choix des mots, figurant le singulier sur le chaos de l'indifférencié, ouvre entre chaque créature, unique et reliée, la distance suffisante pour que s'anime, légère et dotée de souffle, la liberté. Nommer comme séparé. La vigueur du sens est choix, seconde naissance. La fusion, chaos, violence d'avant la conscience. Là où la parole n'en peut mais, s'ouvre le gouffre sans voix ni recours, et nous contemplons meurtris les viscères apeurés de la tragédie. Merci de m'avoir écoutée.